Oui, j'ai imaginé un moment la momie, vénérable cadavre, traverser le Zagros et les montagnes du Kurdistan à dos d'âne pour rejoindre la Turquie, puis l'Europe ou les États-Unis. Passager clandestin âgé de 2000 ans, empruntant la même route dangereuse que les armées d'Alexandre ou les Iraniens qui fuyaient le régime. Les pilleurs de tombes de Syrie ne proposent pas de momies, que je sache, mais des animaux en bronze, des sceaux cylindres, des lampes à huile byzantines, des croix, des monnaies, des statues, des bas-reliefs et même des entablements ou des chapiteaux sculptés. À Palmyre, les vieilles pierres étaient si nombreuses que le mobilier de jardin de l'hôtel Zénobie en était entièrement constitué. Chapiteaux pour les tables, fûts de colonnes pour les bancs, moellons pour les plates-bandes, la terrasse empruntait largement aux ruines qu'elle jouxtait. L'hôtel, de plain-pied, avait été construit par un grand architecte oublié, Fernando de Aranda, fils de Fernando de Aranda, musicien à la cour d'Abdulhamid à Istanbul, successeur de Donizetti comme chef de l'orchestre et des fanfares militaires impériales. À Palmyre, j'étais donc un peu chez moi. Le désert retentissait des accents lointains de la musique de la capitale ottomane. Fernando de Aranda, fils, avait fait toute sa carrière en Syrie, où il était mort dans les années 60 et avait construit plusieurs bâtiments importants à Damas, dans un style qu'on aurait pu qualifier d'art nouveau orientalisant, dont la gare du Hedjaz, l'université, nombre de grandes demeures, et l'hôtel Zénobie de Palmyre, qui ne s'appelait pas encore Zénobie, mais Katané, du nom de la société d'investissement qu'il avait commanditée à l'étoile montante de l'architecture moderne syrienne, en prévision de l'ouverture de la région aux voyageurs. Le bâtiment fut abandonné avant même d'être terminé, laissé aux soins de la garnison française de Palmyre, mais aristes, aviateurs, petits officiers sans avenir, qui veillaient sur les affaires bédouines et l'immense territoire désertique jusqu'à l'Irak et la Jordanie, où sévissaient les Britanniques. L'œuvre de Fernando de Aranda, déjà de dimension modeste, s'était vue amputée d'une aile, ce qui donnait à sa façade un air plutôt biscornu. Le fronton au-dessus de la porte d'entrée, avec ses deux pilastres et ses palmettes, ne régentait plus une noble symétrie, mais le début d'un renfoncement où se tenait la terrasse de l'hôtel, et ce déséquilibre donnait à l'ensemble un air claudiquant, susceptible de provoquer, selon les sentiments que vous inspirent les boiteux, la tendresse ou le mépris. Tendresse ou mépris, encouragé d'ailleurs par l'intérieur de la bâtisse, aux étranges vieilles chaises en paille dans le lobby, aux chambres minuscules et étouffantes, aujourd'hui rénovées mais qui, à l'époque, arboraient des images jaunies du ministère du tourisme syrien et des bédouineries poussiéreuses. Sarah et moi penchions plutôt pour la tendresse. Elle, à cause d'Anne-Marie Schwarzenbach et de Marga Dandurand, moi, heureux de voir les fruits insoupçonnés que le maître de musique ottoman avait, par l'intermédiaire de son fils, offert au désert de Syrie. L'emplacement de l'hôtel Zénobie était extraordinaire. Sur le côté de la ville antique, on avait sous les yeux, à quelques dizaines de mètres à peine, le temple de Baal. Et si on était assez chanceux pour obtenir une des chambres qui donnait sur la façade avant, on dormait pour ainsi dire au milieu des ruines, la tête dans les étoiles et les rêves anciens, bercé par les conversations de Baal Shamin, dieu du soleil et de la rosée, avec Ishtar, la déesse au lion. Ici régnait Tammuz, l'Adonis des Grecs, que chantait Badr Shakir Sayyab l'Irakien dans ses poèmes. On s'attendait à voir l'oasis se couvrir d'anémones rouges, nées du sang de ce mortel dont le seul crime fut de trop passionner les déesses. Ce jour-là, il n'était pas question d'hôtel, puisque nous avions eu l'étrange idée de dormir dans la citadelle de Fakhreddin pour profiter, au coucher du soleil et à son lever, de la beauté de la ville. Bien sûr, nous ne possédions aucun matériel de camping. Bilger et moi avions entassé dans son 4x4 5 ou 6 couvertures.